Bonsoir. L'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs en RDC affirme qu'il n'y aura aucune excuse pour que l'élection présidentielle ne se tienne pas avant fin 2016 en RDC. Il l'a dit hier, lundi, à Kinshasa, dans un point de presse. Ross Feingold annonce que les États-Unis ont déjà débloqué 20 millions de dollars pour l'organisation de l'élection présidentielle en RDC dans les délais constitutionnels. Comment analyser cette déclaration? Nous en parlons avec André-Alain Atunduliongo. Il est cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République fédère en sigle. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur André-Alain Atunduliongo.
Bonsoir.
Jolion Makelele, député provincial et porte-parole de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, en sigle, parti de l'opposition. Bonsoir, honorable Jolion Makelele.
Bonsoir.
Et Dominique Wertz, il est expert électoral et chef de projet du renforcement des capacités de l'Assemblée nationale de la République de Guinée-Conakry. Il a aussi travaillé en RDC, il va nous rejoindre dans un petit moment. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Il n'y aura aucune excuse pour que l'élection présidentielle ne se tienne pas avant fin 2016 en RDC. C'est ce qu'a affirmé ce lundi l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs et en RDC. Au cours d'un face-à-face avec la presse, Ross Feingold a précisé que les États-Unis ont déjà débloqué 20 millions de dollars pour l'organisation de l'élection présidentielle en RDC et ce, dans les délais constitutionnels. Le sénateur américain a par ailleurs ajouté qu'en 2016, il devrait y avoir une passation des pouvoirs pacifiques entre le président sortant et celui qui sera élu. On écoute Ross Feingold au micro de Michel Kifinangoy.
Nous avons réitéré à maintes reprises la nécessité pour la CENI de publier un calendrier électoral complet. Et maintenant, avec l'adoption effective de la loi électorale, nous pensons que ces conditions sont là pour que ce calendrier puisse être publié. Et j'aimerais particulièrement souligner le fait que ce calendrier devrait inclure d'une manière claire la tenue des élections présidentielles au courant de l'année. Et la position des États-Unis est claire à ce sujet. Nous pensons que le transfert de pouvoir doit se faire d'une manière paisible et démocratique à travers la tenue d'élections crédibles et transparentes. Et ce n'est pas qu'une politique que nous recommandons spécifiquement à la RDC, mais c'est une manière de faire qui doit s'appliquer bien sûr à tous les nouveaux gouvernements de la région et au-delà du continent africain. Il n'y a aucune excuse pour ne pas pouvoir ou vouloir organiser les élections par manque de fonds. Et c'est pour ça que nous, les États-Unis, nous adaptions de faire en sorte que les États-Unis soient parmi les premières puissances à pouvoir soutenir la tenue d'élections de la RDC. Il y a déjà 20 millions de dollars qui ont été décaissés à cet effet. Et il ne faut pas que cet argument soit utilisé pour faire en sorte que l'élection ne se tienne pas d'une manière dans un temps opportun.
André-Alain Atunduliongo, je rappelle que vous êtes cadre de la majorité présidentielle, président du parti politique Convention pour la démocratie et la République fédère en sigle. Pas d'excuse pour que l'élection présidentielle ne se tienne pas avant fin 2016 en RDC. Votre analyse?
Rebonsoir. Je pense que M. Feingold a profité de son séjour à Kinshasa pour faire une rentrée politique dans notre pays. Et donc, comme toute rentrée politique, ce qui est important, c'est l'auditoire, la réaction qu'on fait à l'auditoire, plutôt que la complexité des faits que l'on traite. Parce que...
Vous voulez dire quoi par là ?
Je vais donner un exemple tout simple. Il parle des élections présidentielles qui sont essentielles par rapport aux élections provinciales. Or, vous savez que notre Parlement est constitué de deux chambres et que pour que le Sénat soit renouvelé, il faut que les élections provinciales se tiennent pour avoir des députés provinciaux. Et le Sénat est une seconde béquille de notre démocratie. Et donc, nous ne pouvons pas continuer à travailler avec un Sénat qui est au-delà de son mandat. Vous savez que dans la Constitution, la première condition de la fin du mandat du sénateur et du Sénat, c'est l'expiration du mandat. Et donc aujourd'hui, ils sont déjà à 2 ans de mandat. Je crois que c'est
donc vous voulez dire par là qu'il est nécessaire d'organiser le provincial.
Absolument. Il est absolument nécessaire parce que la démocratie ne se limite pas qu'à l'organisation des élections présidentielles et législatives. Et donc, il est important qu'on tienne compte de cet aspect-là des choses. Et je pense que le représentant des Nations Unies du président Obama est un partenaire de la République. Un partenaire de la République, c'est-à-dire qu'il a en face de lui l'État. Et l'État, ce sont les institutions. C'est le gouvernement, c'est le président de la République, c'est la CENI, etc. Et donc, il doit aussi respecter l'ordonnancement et la séparation du pouvoir dans notre Constitution. Vous le savez, la CENI est une institution indépendante. Et là, des contraintes particulières. Et où le gouvernement, en réalité, ne peut rien faire.
Oui, mais les liens entre ce que vous dites et ses propos, quand il dit qu'il n'y a pas d'excuses pour que l'on ne puisse pas tenir les élections présidentielles en 2016, les liens, c'est quoi?
Je veux dire qu'il fait une profession de foi, que nous aussi on a fait. Nous souhaitons que les élections se tiennent attendues pour éviter toutes sortes de malentendus. Mais dans notre pays, en Afrique et même chez eux, eh bien, il est difficile d'être prophète, encore moins divin. Et donc, je pense qu'il devait d'abord s'adresser à la CENI pour savoir exactement ce qu'il en est, ensuite voir l'avis du gouvernement et l'avis des partenaires. Et dans tous les cas...
Vous ne pensez pas que ce message est aussi adressé à la CENI?
Dans tous les cas, lui, c'est un diplomate. Moi, je me méfie beaucoup de la diplomatie spectacle, n'est-ce pas? La diplomatie spectacle est faite pour impressionner certains partenaires. Alors, mais la réalité des choses, c'est la diplomatie de petits pas.
Lorsque Russ Feingold fait cette affirmation et lit cela aux finances, en précisant que les États-Unis ont déjà déboursé 20 millions de dollars pour l'organisation des élections présidentielles dans les délais constitutionnels, peut-on comprendre cela par là que les États-Unis soupçonnent la majorité présidentielle de vouloir utiliser la Libye, n'est-ce pas, financière pour justifier la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels?
La majorité présidentielle est une organisation politique comme l'opposition républicaine ou l'opposition en général. Elle n'a pas le pouvoir d'agir en lieu et place de la CENI. Elle n'a pas le pouvoir d'agir en lieu et place du gouvernement de la République. Elle n'a pas le pouvoir d'agir en lieu et place du président de la République. Et donc, je pense que c'est, une fois de plus, c'est un procès d'intention. La démocratie, c'est la loi du nombre. La démocratie, c'est le respect de la discipline républicaine. La démocratie, c'est agir en fonction d'un certain nombre de principes généraux, notamment l'ordre public, la moralité publique, les droits d'autrui et la constitutionnalité de nos comportements et actes et propos. Et donc, nous, au niveau de la majorité, nous en tenons en cela. Si la CENI à quelques difficultés particulières que nous ne connaissons pas encore, ne sont pas des devins, eh bien la CENI n'a qu'à s'ouvrir en se disant, voilà, nous avons telle difficulté. Elle s'adresse à nous en tant que partenaire, comme elle peut s'adresser à l'opposition en disant, voilà. Mais quant à dire que 20 millions suffisent à organiser les élections présidentielles, bon, bien sûr, la sagesse populaire dit qu'un cheval donné, on ne regarde pas la dent, mais je pense que ce n'est pas un montant particulièrement significatif.
Monsieur Feingold a rappelé une position déjà connue, c'est depuis plus d'une année que les États-Unis tiennent ces discours. À votre avis, pourquoi il insiste sur la présidentielle?
Je ne sais pas. Vous savez, aujourd'hui, si nous avons connu en 2006, 2011, ces arriérés qu'on appelle électoraux, c'est parce que au début, en 2006, la communauté internationale a pensé qu'il suffisait d'organiser des élections emblématiques de la démocratie pour que la démocratie soit totale. On s'est rendu compte, après deux mandats, que l'organisation des élections locales sont aussi importantes, sinon plus importantes. C'est là où la population agit directement sur le pouvoir et participe au pouvoir. Et donc, moi, je pense que, et il a raison de donner son opinion, il a raison d'insister sur la présidentielle. La valeur, il doit plutôt insister sur la valeur emblématique des élections présidentielles. Mais les autres élections, mais ce sont aussi des obligations constitutionnelles. Le député provincial est élu pour 5 ans. Et donc, après 5 ans, il faut organiser les élections. D'autant plus que c'est un pendant de l'élection des sénateurs.
Merci. Jolino Makelele, je rappelle que vous êtes député provincial et porte-parole de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, en sigle. C'est un parti de l'opposition. Comment vous analysez la déclaration de M. Russ Feingold?
Merci d'abord pour l'invitation. Je dois dire que je suis heureux de constater, en tout cas au nom de l'UNC et de l'opposition en particulier, je suis heureux de constater que des amis du Congo sont en train de rejoindre la position jusque-là exprimée par l'opposition régionale et par l'UNC en particulier.
Les amis du Congo, c'est qui?
Les amis du Congo, c'est-à-dire les partenaires extérieurs notamment, et en particulier les États-Unis, dont on parle tant dans cette émission. Les bons amis donnent toujours des bons conseils, et on dit aussi que qui aime bien châtie bien. S'agissant des élections, du processus électoral, il faut quand même que les gens se posent les bonnes questions. J'ai entendu l'ambassadeur Atundu ici parler d'un parallèle entre les élections locales et les élections présidentielles qui relèvent toutes de notre constitution. Et on m'a parlé du Sénat qui est le pendant de l'Assemblée nationale, et puis en d'autres termes, sous-entendu, vous ne pouvez pas organiser les élections législatives pour voir au remplacement des députés nationaux sans organiser parallèlement les élections des sénateurs. Mais de qui se moque-t-on? On est dans quel stade aujourd'hui? Nous avons les députés provinciaux, et j'en fais partie, qui ont déjà dépassé largement leur mandat. Les sénateurs qui ont largement dépassé leur mandat. Les gouverneurs, la même chose. Comme dirait quelqu'un que vous connaissez, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Et là, je dois préciser quand même que la Constitution a bien prévu que le mandat des députés provinciaux est de 5 ans.
Mais cet argument aussi pourrait être utilisé demain contre vous pour d'autres élections.
Attendez, la différence elle est énorme. C'est-à-dire que le mandat du président, du député provincial, du sénateur, et même des députés nationaux, c'est un mandat de 5 ans, et renouvelable à plusieurs reprises naturellement, sauf que les députés provinciaux, lui, il ne quitte ses fonctions qu'au moment de l'entrée du nouveau. Et il n'y a pas un délai constitutionnel organisé par la Constitution qui prévoit exactement à quel moment il peut être élu, à quel moment il doit être renouvelé. La différence est les détails. La Constitution, c'est notre Bible. Elle prévoit que le mandat du président Kabila se termine le 19 décembre 2016 et 90 jours avant cela, il faut organiser des élections. Donc la différence, elle est de taille. On n'a pas cette disposition-là pour les sénateurs. Et d'ailleurs, je dois dire ici, pour revenir à la problématique de financement, c'est parce que justement cette élection, elle est une élection cardinale, que toute la communauté, tous ceux qui nous aiment, veulent que nous respections cette échéance constitutionnelle.
Justement par rapport au financement de ces élections, dans sa déclaration, M. Feingold affirme que les États-Unis ont déjà débloqué 20 millions de dollars pour la tenue des élections présidentielles. Pourquoi il fait les liens avec l'aspect financier? Et vous pensez qu'à la majorité, on a l'intention de retarder, n'est-ce pas, les élections présidentielles pour des questions en fait des contraintes budgétaires?
Vous savez, j'ai la chance d'appartenir à un parti qui nous oblige à faire des bonnes lectures. Et j'ai lu les projets de loi portant révision de la Constitution, projets qui étaient soumis par le gouvernement, délibérés en Conseil des ministres, soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale, et qui a connu le sort que vous connaissez, et parce que finalement, et c'est un projet qui accompagnait évidemment le projet de loi relatif à l'élection des députés, au processus électoral en cours. La justification, je lis M. Mende, que pour des raisons, ce projet, les modifications, notamment celles qui devaient toucher au mandat du député provincial, c'était dû aux difficultés financières que prouvait le pays. Ils avaient déjà commencé à préparer le terrain. Moi, je vous dis, on est dans quel pays? Ce gouvernement qui se targue d'être un gouvernement qui donne, comme on n'en a jamais connu sur le plan économique, il est là en fonction depuis 2012. Et comme vous le savez, la LOFIP, la loi relative aux finances publiques, prévoit que le budget est pluriannuel. Cela revient à dire que ce gouvernement, qui est censé savoir qu'il y avait des élections organisées, devait affecter à chaque exercice budgétaire un montant bien déterminé. Il ne l'avait jamais fait. Et deuxièmement, ce gouvernement, et pour cause, parce que la mauvaise gestion, quand je ne veux pas vous parler du rapport de la Cour des comptes ici, que j'ai ici, qui a torpillé complètement ce projet, ce gouvernement qui nous dit qu'il va faire 8 milliards et demi ou 8 milliards, qui ne fait que 4 milliards de recettes et 4 milliards de dépenses, et là on nous projette 9 milliards, nous en sommes sûrs que nous n'atteindrons même pas 5 milliards, ce qui est triste pour moi et pour mon pays. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ils organisent déjà, avec ce que je viens de vous dire pour le compte relatif au compte rendu du gouvernement pour en rapport avec l'élection, la révision constitutionnelle qui était envisagée pour les députés provinciaux, ils avaient déjà annoncé cela. En fait, ils veulent organiser la force majeure, c'est-à-dire mettre la CENI devant un fait accompli, et je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs cela peut être recevable, parce que M. Malumalo a déjà donné des preuves de son affiliation, si j'ose dire, à la ligne du président de la République. Et pourquoi ils le font? Là, ils organisent la force majeure, c'est-à-dire ils vont dire le pays n'a pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent.
Et vous basez sur quels éléments pour...
Mais je vous dis, je ne suis pas... Je tire ça, lisez demain, retrouvez le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres qui a délibéré sur les projets de loi.
Ils ont dit clairement qu'il n'y a pas d'argent pour...
Vous allez lire ça, je suis prêt à revenir ici demain, parce que je n'ai pas le texte ici, demain. Mais ils avaient déjà annoncé ça pour des raisons financières. Moi, je vous dis, cette force majeure, elle ne s'organise pas. M. Atundu est juriste et j'ai la chance d'avoir suivi des cours de droit aussi comme lui, pour vous dire que la force majeure a comme deux caractéristiques majeures. C'est d'abord qu'elle est imprévue, imprévisible, c'est-à-dire vous ne le voyez pas venir, vous ne savez pas qu'il va venir, et irrésistible, c'est-à-dire vous ne pouvez pas y résister, il faut faire comme les événements vous y amènent. Non, nous disons l'argent est là, et au surplus. À supposer qu'ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent dans le budget, ils ont, avec l'histoire de l'ONIP, rappelez-vous, le gouvernement récemment a fait une déclaration pour
Merci
dire,
honorable.
Je termine par là s'il vous plaît, pour dire que l'opération ONIP, le montage financier est terminé pour 500 millions. Qu'ils prennent les 500 millions qu'il affecte à l'élection principale qui est l'élection présidentielle, le reste on avisera.
Merci Dominique Wert, expert électoral et chef de projet du renforcement des capacités de l'Assemblée nationale de la République de Guinée-Conakry. Vous avez aussi travaillé ici en RDC. Bonsoir.
Bonsoir à tous vos auditeurs et surtout évidemment à vos invités, où malheureusement je ne peux pas être là en studio.
Voilà, comment vous analysez ces débats, hein? Vous avez suivi l'ambassadeur André Alain Atundu qui estime qu'il y a une sorte de procès d'intention, n'est-ce pas, de la part des États-Unis, et le député Jolino Makelele qui dit que la majorité est en train d'organiser la force majeure. Comment vous analysez ces débats?
Écoutez, moi je peux l'analyser au travers... si vous voulez, pour qu'on soit un petit peu rapide, et puis on pourra y revenir dans un deuxième temps, mais je l'analyse sur quatre points. Le premier, évidemment, à partir du moment où les États-Unis, par la voix de M. Feingold, prennent une position par rapport au processus démocratique en République démocratique du Congo, ben, ce n'est pas une anecdote. Il est évident que les États-Unis sont un État dans le monde qui pèse, on le voit actuellement dans les différentes crises que traverse le monde, et à partir du moment où on prend une position au plus haut niveau de l'État, puisque M. Feingold est l'envoyé spécial comme sénateur du président Barack Obama, ben, ce n'est pas une anecdote. Mais en même temps, ce n'est pas anodin non plus, je pense. Il faut quand même rappeler deux ou trois petites choses. La première, c'est que c'est le peuple qui est quand même responsable et souverain, avant tout. Et surtout dans un processus démocratique et dans un processus électoral. Alors, soyons de bon compte. On voit que M. Feingold nous a déclaré hier qu'il fallait absolument que le processus électoral, notamment présidentiel, aille dans les dates qui ont été prévues. Et les États-Unis, pour faciliter le fait que la République démocratique du Congo respecte le calendrier électoral, amène 20 millions de dollars. Alors, nos deux invités en parlaient tout à l'heure. 20 millions de dollars, ça fait même pas 5% du coût des élections présidentielles, uniquement des élections présidentielles, puisque je vous le rappelle, le coût évalué des élections présidentielles de 2011 en République démocratique du Congo tournait autour de 400 millions de dollars. Donc 20 millions, est-ce qu'avec 5% d'apport des États-Unis dans le budget de l'organisation des élections présidentielles, c'est important, je pense que c'est quand même un tout petit peu faible. D'autant plus que la République démocratique du Congo, le gouvernement, j'ai entendu encore son porte-parole, le ministre Mendié, hier, confirme, et la Commission électorale nationale indépendante le confirme encore plus, qu'ils sont tout à fait disposés, évidemment, à accueillir un soutien financier des fameux partenaires de la République démocratique du Congo dans l'organisation des processus électoraux qui doivent se dérouler entre maintenant et 2016 et 2017.
Dominique,
on reporte.
Dominique,
on verra bien. Oui.
Oui, vous dites que 20 millions de dollars, oui, 20 millions de dollars plutôt que les États-Unis ont déboursé, n'est-ce pas, pour financer les présidentielles, sont insignifiants par rapport au budget global. Est-ce que ce ne serait pas symbolique, hein? Ce ne serait pas une façon, n'est-ce pas, de dire, en fait, pour les États-Unis, de dire au gouvernement congolais que, écoutez, ne retardez pas les élections pour des raisons financières. Et sachez déjà que nous sommes disposés à vous aider. Et déjà, nous avons déboursé 20 millions. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas une façon de, n'est-ce pas, de pousser le gouvernement à ne pas utiliser l'argument financier comme alibi, n'est-ce pas, pour retarder les élections?
Oui, mais je pense, si on fait le rapport entre ce que les États-Unis sont prêts à amener dans le budget global de l'organisation des processus électoraux, je pense que, évidemment, le montant est quand même assez faible. Pour, en tout cas, argumenter sur le fait que nous amenons 20 millions de dollars, et donc, avec les 20 millions de dollars que les États-Unis vont apporter dans l'organisation des élections, je rappelle bien qu'il y a plusieurs processus électoraux, il n'y en a pas qu'un, hein, parce qu'il ne faudrait pas tomber dans le syndrome franco-français où on pense qu'il n'y a qu'une seule élection qui compte, c'est l'élection présidentielle. Ce n'est pas vrai. Vos deux invités l'ont bien rappelé, il y a actuellement un déficit démocratique par le fait que les députés nationaux et donc les sénateurs et donc les gouverneurs n'ont plus été élus depuis 2006. Il veut dire que maintenant, cela fait 9 ans, alors qu'ils avaient un mandat de 5 ans. Donc il y a plusieurs processus électoraux. Cet apport financier, ou en tout cas, ce chantage en disant nous amenons 20 millions, et donc, vous voyez, vous ne pourrez plus mettre en avant l'argument du financement propre sur les fonds de l'État de la République démocratique du Congo des élections, ça ne tient quand même pas vraiment la route, hein, me semble-t-il.
Voilà, déficit démocratique, étant donné qu'il y a des élections qui n'ont pas été organisées, vous l'avez dit. Mais ici, M. Feingold insiste sur la tenue des élections présidentielles. Comment vous analysez cette insistance sur les élections présidentielles?
Écoutez, moi, ben oui, je pense que c'est... Je vous l'ai dit, c'est un syndrome franco-français, mais certainement aussi très états-unien, dans le sens où on sait très bien que la Constitution des États-Unis, comme la Constitution de la Ve République en France, donne un pouvoir presque démesuré au président de la République, puisque déjà aux États-Unis, on n'a même pas de premier ministre. En France, on sait bien que c'est le chef de l'État, c'est-à-dire l'Élysée, qui quand même décide de tout et donne la feuille de route à son gouvernement. Moi, je pense que dans un contexte comme la République démocratique du Congo, il ne faut surtout pas oublier les autres processus électoraux, bien entendu, que l'élection présidentielle est très importante. Mais je rappelle quand même qu'actuellement, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila, n'est pas hors mandat, hein, jusqu'à présent. Il est tout à fait dans les mandats de 2011, où il a été élu, et où il doit en tout cas partir en 2016, puisque la Constitution le prévoit. Mais je ne vois pas de modification de la Constitution. On a vu les événements du mois de janvier, où la loi électorale a été finalement révisée suite à la pression populaire. Moi, je pense honnêtement qu'il faut faire confiance à la maturité démocratique des institutions de la République démocratique du Congo, que ce soit la Commission électorale nationale indépendante, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Sénat, que ce soit les partis politiques, parce que je voudrais quand même insister, et ça je voudrais avoir peut-être la réaction de vos invités, mais je voudrais insister sur le fait que, évidemment, on est bien d'accord que la Commission électorale nationale indépendante a une très grande partie de responsabilité dans l'organisation des scrutins.
Merci.
Mais il ne faut pas oublier toutes les parties prenantes au scrutin.
Et merci.
Donc, quand on dit « Ah, mais c'est la CENI qui est responsable de tout », je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Parce qu'il y a des partis politiques qui sont responsables des scrutins. Il y a évidemment le gouvernement, il y a évidemment l'Assemblée nationale, il y a évidemment la justice, il y a évidemment les forces de police, et il y a aussi évidemment la société civile.
Merci, ambassadeur André Alain Tondou. Nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Kinshasa.
Maître Patrick Assema à Kinshasa. Le gouvernement doit veiller au respect de l'ordre constitutionnel, non pas parce qu'il subit des pressions qui, si elles sont faites de façon exagérée, peuvent être considérées comme une certaine ingérence aux affaires internes de la RDC, mais plutôt parce que ce sont des voies fondamentales. Toutefois, l'on ne peut pas se voiler la face. La position des États-Unis d'Amérique ne peut pas être prise à la légèreté, car ils sont non seulement la grande puissance mondiale, mais ils sont aussi parmi les grands décideurs de l'ONU qui peut nous apporter son appui logistique ou son expertise. Quoique financièrement, le montant promis semble être insignifiant par rapport à l'état des besoins de la CENI.
Monsieur l'ambassadeur André Alain Tondou.
Merci beaucoup. Je dirais que chat échaudé craint l'eau froide. Les promesses des États-Unis, qui sont beaucoup moins importantes que la promesse de la communauté internationale aux élections de 2011, nous ont échaudé parce que, au bout du compte, c'est le gouvernement tout seul qui a organisé les élections. Ça, c'est de un. Deuxièmement, je tiens à rappeler que le gouvernement tient aux élections, à l'organisation des élections, et comme l'a rappelé
Monsieur Vert,
de tout le processus, de tous les processus électoraux, parce que il n'y a pas de petites élections, comme semble le dire le Sénat, l'honorable Makelele. Toutes les élections font partie de la rationalité de notre Constitution, du corpus de notre Constitution et du fonctionnement harmonieux de notre démocratie. Et donc, il n'y a pas de petites élections. Il est important. Le gouvernement, toute la classe politique, pense aujourd'hui à une élection emblématique, c'est l'élection présidentielle. Mais pour le fonctionnement harmonieux des élections, de la démocratie, il faut organiser tous les cycles. Et le gouvernement, qui a une responsabilité à veiller au bon fonctionnement de la démocratie, eh bien, ne peut pas négliger une élection au motif que ce n'est pas l'élection présidentielle. Je confirme d'ailleurs, parce que le sénateur a dit, je lis l'article 70, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Donc, il n'y a pas de drame. Ce n'est pas le 19. J'ai comme l'impression, malheureusement, que les leaders de l'opposition, notamment l'honorable, confond la rotation et l'alternance. La rotation est automatique. L'alternance ne l'est pas. Il n'est pas dit que si aujourd'hui, demain, le président Kabila ne se présente pas, que ce sera l'opposition qui va prendre le pouvoir, ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition.
Voilà, monsieur l'ambassadeur, donc, est-ce qu'il n'y a pas des faits qui puissent expliquer, n'est-ce pas, la position des États-Unis? On a vécu ici, c'était au mois de janvier dernier, comment la majorité présidentielle a tenu mordicus, n'est-ce pas, à faire passer un projet de loi, le projet de loi sur les élections, alors que l'alinéa 3 de l'article 8 posait problème. Et là, nous sommes au mois de février, et il n'y a toujours pas de calendrier électoral global, alors que c'était une exigence, n'est-ce pas, de la communauté internationale ainsi que de l'opposition. Est-ce que ces faits-là ne peuvent pas expliquer l'insistance des États-Unis, cette prise de position des États-Unis?
Je voudrais d'abord rappeler ici que le gouvernement présente, ou n'importe quel parti d'ailleurs, 100 000 citoyens, le Parlement, le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée, présente le projet de loi. Mais c'est sa conviction. Pourquoi il le présente au Parlement? Ce n'est pas pour opérer un passage en force, ce n'est pas pour tromper le Parlement, c'est pour que le Parlement puisse examiner la faisabilité de la loi, la fonctionnalité des dispositions légales en fonction de l'objectif recherché. Et donc si le Parlement n'est pas convaincu pour une raison ou une autre, votre compte, mais il n'y a pas de quoi, n'est-ce pas, jubiler. C'est comme si on faisait de l'opposition par défi. Non, on nous reproche de faire le gouverner par défi, mais il ne faut pas faire l'opposition par défi. C'est de pratique démocratique courante, n'est-ce pas, que les lois soient examinées, parce que les lois sont des dispositions qui sont appelées à évoluer en fonction de l'environnement. Et donc, il est tout à fait normal que pour telle loi, l'environnement n'est pas encore serein ou adapté, et bien pour telle autre, il est temps, on passe, etc. Mais je pense que l'honorable Makelele, qui a vécu en Europe, doit quand même consulter aussi, comme l'a rappelé M. Wirt, aux États-Unis, tout ne passe pas comme une lettre à la poste, qui se souvient tout simplement un tout petit peu des problèmes que le président Obama a aujourd'hui. Et donc, c'est de lutte politique et démocratique courante et normale. Et nous sommes une démocratie normale. C'est normal que le gouvernement puisse défendre une position. C'est normal que d'autres aient d'autres positions.
Merci. Honorable Jolino Makelele, il y a cette question pour vous, hein, qui vient des Bukavu Sud Kivu.
Je crois que l'acte posé par les États-Unis d'Amérique envers la population congolaise est totalitaire, car ceci prouve à suffisance que le monde entier suit avec beaucoup d'attention le funeste question des élections en République démocratique du Congo. Mais hélas, la déclaration de l'émissaire américain dans la région des Grands Lacs relève une certaine ingérence et ceci pour imposer aux Congolais ses futurs dirigeants. Car la main qui donne, c'est bien elle qui commande.
Honorable Jolino.
Oui, je suis triste de faire ce constat-là, mais si tel était le cas, tous ceux qui nous apportent de l'aide sont des gens qui voudraient peut-être avoir chacun son candidat. Non, je pense que c'est pas raisonnable. C'est tout ce que je peux dire à ce propos-là. Pour revenir un peu à ce que l'ambassadeur
a dit. Ce n'est pas la position des États-Unis, n'est pas une ingérence, non, hein?
Non, ce sont des amis. Je rappelle quand même que les États-Unis d'Amérique sont le premier contributeur de l'ONU. Le premier contributeur, donc, de la MONUSCO. La MONUSCO, que je sache, si mes chiffres sont bons, c'est à peu près $1 milliard par an. Et quand vous mettez autant de monde, autant de moyens, c'est pour rechercher une solution qui puisse faire que ces gens-là ne soient plus présents, c'est-à-dire la paix. Et la démocratie participe à la paix. La république que nous avons tous appelée de nos voeux depuis Sam City, cette république, nous l'avons voulu, une république démocratique. Et cette république, c'est-à-dire le respect de loi, l'état de loi, l'état de droit. les lois qui sont au-dessus de tout le monde. Vous avez parlé tout à l'heure, j'ai entendu des choses en ce qui concerne le budget, par exemple. On m'a dit, budget, ça fait à peu près 400 millions. Mais les États-Unis, il faut quand même relativiser les choses. C'est tout un processus, le processus électoral. C'est pas 20 millions qu'on donne aussi, je ne vais pas rentrer dans la tête de l'envoyé spécial américain, mais c'est une contribution parce qu'il y a, c'est tout un processus. L'élection en elle-même, c'est, j'allais presque dire, c'est la fin d'un processus. Je veux vous illustrer cela. J'ai, ici, nous ne sommes pas à la télé, mais nous sommes à la radio, j'ai un document, je vous prends un témoin, qui s'appelle le rapport, un document de la CENI qui s'appelle le rapport annuel juin 2013-juin 2014, où on parle du calendrier des élections urbaines, municipales et locales. Ce processus devait commencer le 6 mars 2014, et à la date... Tenez bien, on est à la date du 16 février 2015. Nous devrions en être au contentieux des candidatures déposées et au recours pour les élections municipales dont on nous parle maintenant.
Là c'est le calendrier initial. Là, ça, il y a un autre calendrier.
Non, attendez. Ce calendrier-là, dont vous avez vu le début le 6 mars, avec tout un processus, eh bien, il n'a pas encore été exécuté. Donc, si...
Il y a un autre calendrier qui prévoit ces élections au mois de juin
oui,
prochain.
Oui, d'accord, mais les préalables ne sont pas remplis. Tous ces processus-là, ça fait partie de ces préalables-là. Et donc, il est impossible, vous pouvez demander aux gens de la CENI, ils vont sortir leur calendrier, nous espérons que ce sera un calendrier global, et vous verrez qu'ils ne sont pas là-dedans. Enfin, surtout, je vais revenir quand même au fameux glissement. On nous dit que pour le fonctionnement harmonieux de la démocratie, toutes les élections sont importantes. Je n'en disconviens pas. Je vous dis tout simplement que si tel avait été le cas, vous les auriez organisées depuis les locales et les provinciales. Vous ne les avez pas faites. C'est que vous savez que vous pouviez, d'une certaine manière, vous en passer. Mais je vous dis, il y a un obstacle dirimant. La Constitution est là, cet article 73 qui dit que l'élection du président de la République se fait et convoquée 90 jours avant la fin du mandat. Voilà, ça, aucune autre élection.
Nous avons Mati Mwamba, depuis le Kassi au Katanga. Il dit notre constitution prévoit déjà l'organisation des élections présidentielles en 2016. Ça ne sert à rien de nous les rappeler. Le mandat présidentiel est de 5 ans, une fois renouvelable. Les États-Unis ne doivent pas s'inquiéter quant à ceux.
Moi, je dis, ça, c'est le bon sens. Si nous allons de violation en violation, nous ne sommes plus un état de droit. Personne n'est éternel dans ce pays. Ceux qui ont rêvé de Mobutu éternel peuvent nous en dire plus aujourd'hui. Même si politiquement il n'aurait pas pu être éternel, mais au moins la maladie et le bon Dieu, pour ceux qui croient, aurait pu le lui rappeler qu'il n'est pas éternel. Et il y a une vie après la présidence de la République. Les gens, ils sont passés du plan A, à savoir le fameuse concertation contraire à l'accord cadre d'Addis Abeba et à la résolution 2098. Ça n'a pas marché, ils sont venus avec le projet de révision de la Constitution. Ça n'a pas marché quand ils ont eu la bronca de la population, j'allais presque dire le soulèvement de tous ceux qui aiment le Congo. Ça n'a pas marché, le plan C, c'est la fameuse loi électorale, la conditionnalité. Ça n'a pas marché. Et surtout ce que M. Tundou a dit, et le projet, le gouvernement propose un projet, ça vient au Parlement, c'est son rôle de faire ça. Oui, mais c'est surtout votre majorité, M. Tundou, qui s'est réuni à barricader le jour de un jour, pas comme les autres, le jour lié à la mémoire de Lumumba, le 17 janvier. Et vous avez nuitamment, vers 1h du matin, votre majorité, lézardée au surplus, parce que les gens du MSR, comme maintenant, ils sont rejoints aujourd'hui par le PALU. Merci. C'est quelque chose qui n'est pas anodine. Et je peux vous dire que vous êtes restés seuls, vous, et perdez vos amis, parce que le MSR, le PALU, ils sont dans la majorité, mais ils sont habités maintenant par un esprit républicain. Nous pensons que ça va continuer. Et
merci,
donc,
Dominique,
maintenant le plan D, c'est le fameux plan force majeure. Voilà.
Merci Dominique Vert. Il y a eu débat sur l'éventualité de la révision constitutionnelle. Après, c'était celui de la loi électorale. Et aujourd'hui, c'est l'argent à qui devra, n'est-ce pas, financer ces élections et qui semble faire débat. Pourquoi, à votre avis, la prochaine présidentielle suscite autant de débats en RDC?
Écoutez, moi je pense que d'abord parce que c'est un immense pays. Et il est évident que la RDC la République démocratique du Congo pèse énormément dans le continent africain, mais même au-delà du continent africain, sur l'ensemble du monde, vu notamment, bien entendu, mais pas uniquement, mais notamment les richesses dans le sous-sol congolais. Donc, il est évident que toute dynamique de processus électoral en République démocratique du Congo, eh bien, évidemment, suscite énormément de commentaires, de réactions, d'appétit aussi dans certains sens, et c'est évidemment une des raisons. La deuxième raison, je pense, c'est que pour avoir suivi quand même le processus démocratique depuis, et j'aimais beaucoup votre intervenant qui parlait bien de processus démocratique, il n'y a pas une réalité démocratique, il y a un processus qui est dynamique, ça bouge, ça avance, parfois ça recule, mais ça avance. Et la deuxième raison, me semble-t-il, c'est évidemment le fait que depuis 2003, et puis 2006 évidemment, la République démocratique du Congo a tourné le dos à l'antidémocratie. Et je veux dire, nous avons tourné la page des années noires
Dominique.
Qui ont existé du temps du président Mobutu.
Oui. Dominique, nous avons une question pour vous qui vient une fois de plus de Bukavu, c'est qui vous.
Robert Wame de Bukavu, au Sud Kivu. Par simple déclaration d'un envoyé du gouvernement des États-Unis, je ne pense pas qu'il puisse résoudre définitivement les problèmes liés à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels en RDC. S'il en est ainsi, la solution ne sera que cosmétique. Encore faudrait-il qu'elle mette tous les acteurs sociopolitiques ensemble pour qu'ils se parlent sur les questions politiques des fonds afin de trouver de manière concertée des solutions efficaces à leurs différences par la suite d'assurer au peuple congolais les élections réellement démocratiques et transparentes d'ici 2016.
Voilà, que faut-il pour mettre fin à ces débats sur la présidentielle, la prochaine présidentielle, Dominique Vert?
Mais oui, je suis un peu d'accord avec votre auditeur du site qui vous. Maintenant, pour continuer sur ce que je voulais dire, je disais la deuxième raison, c'est que la République démocratique du Congo s'est vraiment engagée dans un processus démocratique. Depuis 2003, 2006, 2005, le référendum sur la Constitution, les élections de 2006, les élections de 2011, on connaît le déficit en 2011 par rapport aux députés provinciaux, enfin aux élections provinciales qui n'ont pas eu lieu, aux élections locales qui n'ont jamais eu lieu depuis la nouvelle Constitution de la Troisième République, mais on ne peut pas l'imputer, c'est une petite parenthèse, à la Commission électorale nationale indépendante actuelle. Puisque c'était évidemment sous M. Moulinda que les élections qui auraient dû avoir lieu en 2011 pour les provinciales n'ont pas eu lieu et qui font qu'aujourd'hui nous avons des sénateurs, des gouverneurs et des députés provinciaux qui siègent depuis 9 ans. Mais on est quand même sur un chemin, on est quand même sur un processus démocratique et ce processus démocratique, il est encore un petit peu adolescent.
Merci.
Évidemment, dans l'histoire de la Troisième République.
Merci.
Cette adolescence, pour moi, commence à se conforter, se confirmer, et on devient tout doucement jeune adulte.
Merci,
dans,
Dominique.
Le processus démocratique en République démocratique.
Merci, Dominique. Je considère ça comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur l'ambassadeur André Alain Tundou, qu'est-ce faut-il pour mettre fin à ces débats? Juste en fait, en quelques secondes, quoi, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Il faut être de bonne foi d'abord. Il faut éviter des procès d'intention. L'opposition doit faire confiance en sa capacité de modifier la situation politique sans violence, eh bien, et puis savoir que nous sommes une république démocratique, c'est-à-dire vivante,
merci.
Existante, non exempte des difficultés.
Honorable Bakelele,
une république d'interaction.
Ma conclusion, c'est que il faut bien que le pouvoir en place se rende compte que c'est pas avec le plan E, c'est-à-dire comment museler Vital Kamerhe par la voie d'une justice déjà à ses ordres, et enfin le plan qui va suivre, c'est-à-dire le plan.
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci,
c'est
la fin de
cette émission.
Merci à l'héritier Kijakala qui était à la technique, à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Alain Iron, Kelin Kouté, Berry Flankan Chaka, sous la supervision de Ben Kabamba, à la présentation Guy Maté. Merci, à la prochaine.